On a eu une journée riche comme hier. Ce matin, Michel Boyancé nous a exposé la doctrine du bien commun telle qu'elle a été façonnée par la pensée grecque antique et prolongée par l'Église catholique. Je dis prolongement, j'aurais davantage insisté que lui peut-être sur l'aspect de reconfiguration, tant la révélation chrétienne change les données quant à l'idée qu'on se fait du souverain bien qui, ultimement, ne peut être que Dieu et la communion à Dieu, communion à la fois personnelle et communautaire. Sous ce rapport, le bien commun, si on l'identifie à Dieu, disait-il, ne peut pas être réduit à un idéal ou à une valeur. Ça n'est ni seulement un idéal, ni seulement une valeur, c'est une réalité objective, en l'occurrence une personne. Et c'est vrai aussi, sans même parler de Dieu, si on considère le bien commun comme l'ensemble des conditions qui permettent à une communauté politique donnée d'atteindre à sa perfection et de s'ouvrir à la grâce, pour paraphraser Gaudium et Spes. Est-ce que ça va tout le monde ou pas? Plus ou moins. Vous êtes fatigué? Moi aussi. Mais on va y arriver. Hein. On va y arriver. Michel Boyancé a ensuite proposé sa propre définition du bien commun. Je la cite. « Le bien commun, c'est le meilleur bien possible des personnes humaines réelles en tant qu'elles sont en relation dans l'unité d'une société politique. » Débrouillez-vous avec ça. Non. Sur le fondement de cette définition, quelques remarques ont été apportées, que je crois importantes. D'abord, ça suppose l'existence d'une communauté politique concrète, donc une société où des personnes ont en commun davantage que la simple appartenance à la nature humaine, ou davantage que le simple hasard qui les a fait naître, habiter ou migrer dans tel endroit plutôt que tel autre. Et c'est peut-être tout l'enjeu pour la France contemporaine. Qu'avons-nous en commun et que voulons-nous avoir en commun ? Confère le constat lucide et amer de Raphaël Glucksmann dont on parlait hier, selon lequel il prenait conscience qu'il se sentait plus proche des élites de New York, Berlin ou Hong Kong que de ses propres concitoyens de Picardie. Qu'avons-nous en commun et que voulons-nous avoir en commun en France aujourd'hui ? Par ailleurs, ce bien commun ne se réduit pas, nous disait Michel Boyancé, à des conditions matérielles ou de justice, mais il englobe toutes les personnes et tout dans chaque personne, jusqu'à la dimension spirituelle. Et, nous disait-il, le bien commun suppose, en plus de la justice, une forme d'amitié politique qui était peut-être ce qu'avait révélé la crise des Gilets jaunes, qui, plus qu'une revendication sur la justice et sur des droits, était la revendication d'une amitié politique qui avait été perdue entre les différents citoyens d'une même communauté politique. Il a soulevé un point intéressant sur lequel je passe rapidement, qui est le mouvement de balancier historique dans la pensée de l'Église entre, d'une part, le primat du commun, que ce soit la société politique ou l'Église, qui a été tenu globalement par l'Église jusque, allez, le premier quart du XXe siècle, et puis, assez rapidement ensuite, le primat de la personne, notamment face à l'émergence des totalitarismes. Et ce mouvement de balancier est intéressant, mais disait-il, il gagnerait à être rééquilibré, c'est-à-dire que de retrouver le fait que la personne peut être, malgré tout, un moyen au service du bien commun qui n'est pas seulement la somme des intérêts particuliers, ni le consensus démocratique à un moment donné de l'histoire d'une société. Ça va jusque-là, c'était la partie philosophique compliquée. Voilà. Pour un regard plus théologique et peut-être plus directement lié à la question de la pauvreté, frère Emmanuel Perrier nous a retracé l'histoire de la théologie de la libération, les difficultés qu'elle a engendrées et les enseignements qu'on peut tirer de cette expérience, à la fois conceptuelle et pratique. Cette théologie, il nous l'a dit, est née dans un contexte précis, l'Amérique latine, dans les années 60, avec la décolonisation récente, l'influence du marxisme, à l'époque encore soutenue par des régimes politiques puissants, des nations jeunes fragmentées, et puis la déstabilisation des structures sociales traditionnelles, etc. etc. Un fait qui n'a pas été peut-être suffisamment, de mon point de vue, souligné dans l'exposé, et qui, je pense, est déterminant, c'est que tous ces pays-là étaient des pays quasi intégralement catholique, en tout cas chrétien. Et l'immense question était la suivante: comment se fait-il que des sociétés aussi catholiques aient pu laisser prospérer des systèmes aussi injustes, tant sur le plan économique que politique, que social, etc. Et aujourd'hui, par exemple, la question est brûlante d'actualité, par exemple aux Philippines, avec le régime du président Duterte. Philippines, 98% de catholiques. On fait assassiner des prêtres pendant la messe sur recommandations assez appuyées du régime. La question, c'est quelle est l'influence concrète de l'Évangile pour transformer en profondeur des mentalités ? Et cette question de Gutiérrez qui reste pendante, est-ce l'homme tout entier et l'homme concret dans l'histoire que le Christ vient sauver, ou bien la foi chrétienne n'est-elle qu'une consolation eschatologique à dimension purement privée et spirituelle ? Et Benoît XVI, dans son discours d'ouverture à la conférence d'Aparecida, qui est la suite de Medellín, de Puebla, etc., les grandes conférences des évêques d'Amérique latine, Benoît XVI a bien souligné qu'on ne pouvait pas et qu'on ne devait pas réduire la foi chrétienne à l'intime d'une part et à l'eschatologique d'autre part. La capacité de l'Évangile à transformer en profondeur une société reste une question capitale qu'on peut évacuer en disant, et c'est vrai, qu'une société se transforme par la conversion personnelle et la sainteté de ses membres, mais tout de même, je ne crois pas qu'on puisse simplement éluder la question et garder, comme le dit Bernanos dans une expression un peu violente, garder les deux mains dans la cuvette de Ponce Pilate, qu'il transforme aisément en cuvette des chiottes. Le père Perrier a ensuite montré les failles de la théologie de la libération, et d'abord la dépendance, je suis fatigué, à des grilles d'analyse importées des sciences sociales et humaines qui étaient insuffisamment critiquées. On se met à la remorque de ces sciences sociales et humaines toutes nouvelles et qui sont à la mode, mais on ne les critique pas suffisamment. La théologie est spécialiste de ça, catholique, française en particulier. Plus une philosophie a 30 ans déjà de retard, plus on l'adopte en nouveau converti zélé, sans la critiquer. Autre point de problème, la filiation marxiste indubitable qui conduit à identifier des opprimés et des oppresseurs en conflit irréductible solvable uniquement par la violence et conduisant à l'obligation morale de s'engager dans un camp et à tout justifier dès lors qu'on se croit dans le bon camp. Une réinterprétation de la Bible et de l'histoire de l'Église en fonction de cette grille de lecture qui lui est exogène. Une redéfinition du péché comme structure collective d'oppression et de la rédemption comme la libération de cette oppression par les seules forces de l'homme, et enfin une lecture dialectique de tous les rapports sociaux et politiques, jusque et y compris au sein même de l'Église, avec cette affirmation quand même incroyable de « je ne peux pas partager l'Eucharistie avec des gens qui font partie de l'Église des riches si je suis de l'Église des pauvres » ou inversement. Ce qu'on appelle la communion, l'Eucharistie. L'enseignement majeur de cette expérience théologique et pratique, c'est qu'il faut se méfier, disait-il, de toute interprétation totalisante et politique de la rédemption. J'oserais dire, ça n'a pas été dit comme ça, qu'une part de la séduction de la théologie de la libération vient exactement de ce primat du politique qui résonnait aux oreilles catholiques, même en France. Ça n'est qu'une déclinaison à l'autre bord politique du politique d'abord de Maurras. Et comme le frère Emmanuel l'a justement souligné, la séduction suprême de la théologie de la libération, comme de toutes ces tentatives d'auto-rédemption de l'homme au plan politique, c'est que ça dispense de la conversion personnelle. Une fois qu'on a identifié les structures injustes, les systèmes à renverser, on n'a plus à se convertir soi-même. C'est la réponse bien connue de Mère Teresa à un journaliste qui lui demandait ce qu'il fallait changer dans le monde, et elle lui répond « toi et moi ». Tout rapporter, et en particulier le salut au plan politique, c'est d'une part oublier que le salut vient de Dieu et de lui seul, et d'autre part, c'est s'exonérer à bon compte de la nécessité d'une conversion théologale. Par ailleurs, au titre de la méthode théologique et de la vie spirituelle, partir de l'expérience humaine et des aspirations d'une société ou d'un groupe dans un contexte donné, c'est presque inéluctablement imposer nos propres conditions à Dieu sur le salut que nous voulons qu'il nous apporte. c'est oublier que Dieu n'est pas fait pour l'homme, mais l'homme pour Dieu. Gardons toutefois en positif de l'expérience de la théologie de la libération cet aphorisme du père de Lubac, qui n'était pas du tout dans ce mouvement, mais qui dit quelque chose que je crois très juste. Quand on choisit les pauvres, on ne peut pas se tromper, car on choisit comme Jésus, et on choisit Jésus. Et je crois que c'est quand même ce qu'il faut garder de cette théologie de la libération. Le choix des pauvres ne peut pas tromper, parce que c'est le choix de Jésus, à la fois au sens du génitif objectif et du génitif subjectif, pour les grammairiens parmi vous. Le choix que fait Jésus et le choix de Jésus comme objet. Bref. La table ronde de cet après-midi a décliné sur le fondement de l'exposé doctrinal de Philippe de Saint-Germain sur le principe de subsidiarité, la manière dont ce principe était à l'œuvre dans les activités de terrain dans le combat contre la pauvreté. De cet exposé, je retiens l'idée de la disparition progressive en France des corps intermédiaires, la famille, l'église, les syndicats, etc., qui font que l'individu a été laissé seul face à l'État, d'une part, et ce qui a été moins souligné et qui me paraît important aussi, face au marché. Dès lors, il devient difficile que, dans toute action politique ou sociale, le niveau de décision soit le plus proche des personnes concernées, puisqu'en fait, il n'y a plus que deux échelons, l'individu lui-même, et puis, à l'autre extrême, l'État ou le marché. Donc, comment trouver l'échelon adapté et le plus proche des personnes s'il n'y a que les personnes ou Big Brother ? Chacun à leur manière, Pierre Durieux, responsable national de l'association Lazare pour des colocations solidaires entre jeunes professionnels et personnes de la rue ou anciennement de la rue, et Benjamin Rosier, responsable local du Secours catholique Caritas France, ils ont montré, à partir de leur expérience de terrain, la validité du principe de subsidiarité. Je retiens quelques points. Premier point, la nécessité de redécouvrir la gratuité, c'est revenu dans les différents exposés sous des formes diverses. On le sait, les prestations sociales ne manquent pas en France et personne n'est condamné a priori à vivre dehors ou à ne pas manger. Les structures existent, les prestations sociales aussi. Mais ce système de prestations sociales, d'abord il est menacé parce qu'il a été pensé pour des conditions économiques, démographiques et morales qui sont celles de la France d'après-guerre, qui n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Et surtout, il ne garantit pas la relation humaine qui est celle qui exclut plus que tout le reste, en l'occurrence en absence de relations humaines. La charité, pour le dire d'un mot, la charité comme la justice, ne doivent pas être seulement effectives, au sens de l'efficacité, mais affectives, en créant une relation d'amitié. Il faut de l'effectif et il faut de l'affectif, non pas au sens de sentimental, mais efficacité et relation humaine. Deuxième point, visé à la responsabilité des personnes, et c'est là où la subsidiarité s'applique. Le modèle Lazare, de ce point de vue, était intéressant, c'est que la personne accueillie paye sa colocation, fût-ce avec les aides publiques, et qu'elle contribue à la vie de la colocation en fonction de ses talents et des besoins de la communauté. Il s'agit de restaurer la personne dans sa dignité, et ça ne peut se faire que dans un climat d'amitié réelle, de vie commune, en reconnaissant que le pauvre n'est pas seulement une personne qui a des besoins et des droits, mais une personne qui a des dons à partager. Il s'agit que les pauvres ne soient pas seulement objets de sollicitude, par hypothèse, mais sujets d'action, en l'occurrence, et sujets de leur propre vie. Troisième point, passer d'un système de prestation à un modèle d'accompagnement qui s'adresse à la personne dans son intégralité et sur le long terme. Je m'interroge à titre personnel sur la capacité des pouvoirs publics à assumer un tel renversement de perspective, de la prestation à l'accompagnement de long terme, ou même sur leur légitimité pour ça. En tout cas, il est certain que le secteur associatif doit en être conscient, même s'il ne peut pas pallier à lui tout seul toutes les défaillances de notre modèle social. Inévitablement, le temps d'échange a fait ressurgir plusieurs questions, sans possibilité de réponse immédiate et simple. L'attitude de l'Église en général et des chrétiens en particulier face à ce pauvre particulier qu'est le migrant dans les conditions actuelles et compte tenu du caractère massif du phénomène. la dimension confessionnelle et d'évangélisation des œuvres caritatives catholiques. Benoît XVI avait mis en garde contre la dérive d'une église réduite à une ONG parmi d'autres. La responsabilité ou non et le caractère volontaire ou non de certaines pauvretés. J'ai été frappé à titre personnel du rôle plusieurs fois souligné de la destruction de la famille dans les grandes problématiques de pauvreté, en particulier le rôle du divorce, des familles monoparentales, etc. Le rôle du divorce, c'est le grand impensé, le grand tabou de notre société. Ça explique, non pas à soi tout seul, mais une grande partie des problématiques de pauvreté, et pas seulement de violence, de marginalisation, de logement. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui l'avait bien montré à l'époque, c'était déjà il y a 15 ans. Enfin, je n'ai pas pu assister aux ateliers, il fallait que j'écrive ce dont je vous parle là maintenant. Je soulignerai toutefois l'expérience de la maison Bernadette, dont Arthur et Maglone ont témoigné, parce que, en l'occurrence, je la connais un peu pour y avoir séjourné. La maison Bernadette n'est évidemment pas la clé de tout, pas plus que l'association Lazare ou que le Secours catholique, mais je relève plusieurs éléments intéressants. D'abord, il s'agit de vivre avec les pauvres dans leur propre quartier et non pas de venir en aide de l'extérieur. Et c'est quelque chose qui est revenu dans nos réflexions sur les deux jours. Deuxième élément, il s'agit de venir en aide à tous les pauvres et à toutes les pauvretés économiques, culturelles, intellectuelles, etc. Troisième point, on y est confronté de manière immédiate à la question de la migration, justement, et de l'islam, du fait de la localisation dans les quartiers nord de Marseille, avec en l'occurrence un positionnement très clair, à la fois catholique assumé, tout le monde dans le quartier sait qu'il y a la messe le plus souvent possible, qu'il y a la prière très régulière, etc., mais sans évangélisation directe. Quatrième point, la vie commune et la vie de prière y sont au fondement de tout le reste, et ça je crois que c'est capital pour toute œuvre d'église caritative. Et cinquième point, on y est très conscient qu'on ne va pas changer radicalement la vie des quartiers nord, même de la seule cité des Lauriers, mais on fait ce qu'on peut là où on est. C'était là. Oui. C'était le point qui avait été souligné, je pense, par Pierre Durieux, de la réduction des prétentions de notre action. On fait ce qu'on peut et on ne va pas éliminer tel ou même juste tel ou tel type de pauvreté, mais on fait ce qu'on peut là où on est. Voilà pour aujourd'hui.